RTL Info, le journal Claire Vigée.
Bonsoir. Le tribunal fédéral devra se prononcer sur la validité de la loi sur le stationnement des communautés nomades. Deux citoyens, une organisation, Yenich et la Société pour le peuple menacé, ont déposé un recours contre cette loi adoptée en février par le Grand Conseil neuchâtelois. La vue, l'odorat, le goût seront particulièrement sollicités dès samedi à la Maison de l'Absinthe à Motier. La nouvelle exposition temporaire s'intitule « Dans tous les sens ». Des jeux ludiques complètent les explications scientifiques. Une première pour les CFF, ils introduisent un horaire spécial été. Une nouveauté rendue nécessaire au vu du nombre et de l'ampleur des chantiers qui seront ouverts durant la belle saison. Le prologue du Tour de Romandie cycliste vient de s'achever dans les rues de Fribourg. Premier maillot jaune pour l'Australien Michael Matthews. Le Suisse Tom Boly est deuxième à une seconde. Et puis encore du beau et du chaud au programme de demain. La météo, c'est Yannick qui vous la propose dans le détail d'ici un quart d'heure. Les nomades se rebiffent. Un recours a été déposé auprès du tribunal fédéral contre la nouvelle loi neuchâteloise sur le stationnement des communautés nomades. Les recourants estiment que celle-ci favorise les discriminations visant les Roms, Sintes et autres Yenich. Ce recours vise l'annulation pure et simple de la loi qui est entrée en vigueur le 1er avril. Deux citoyens neuchâtelois et deux organisations pour la défense des nomades avancent que le texte contrevient à la Constitution fédérale et à plusieurs autres lois suisses. Pour le mandataire des recourants, certains exemples de discrimination sont flagrants. Jonathan Grétilla.
La loi, en fait, oblige les communautés nomades qui souhaitent venir stationner momentanément dans le canton de conclure ce qu'on appelle un contrat cadre avec, par exemple, un propriétaire privé. Le propriétaire privé qui ne se soumet pas à ces règles-là ou qui décide, comme le droit le permet, de conclure son propre contrat avec ces communautés nomades rend, en fait, le campement illicite. Et du seul fait que le campement est illicite, en fait, ça peut aboutir à une procédure d'évacuation immédiate par la police cantonale. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre en fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont absurdes dans cette loi. Et ben, c'est vrai que beaucoup de choses sont à prendre en considération, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit au logement, le droit au respect de la vie familiale, qui sont vraiment spécifiques encore plus pour des communautés nomades liées à leur mode de vie. Et ces droits sont justement atteints de manière inadmissible par plusieurs dispositions de la loi.
Des propos recueillis par Yann Esler, et comme la loi est déjà entrée en vigueur, le recours n'a pas d'effet suspensif. Les Neuchâtelois se prononceront sur la Cour des comptes, l'initiative lancée par le PDC Neuchâtelois qui souhaite la création d'un organe de contrôle financier a été jugée recevable par le Grand Conseil à l'unanimité. Le texte avait récolté 6852 signatures face aux 6000 paraphes nécessaires. Le comité à l'origine de ce texte réclame la création d'un organe qui assure un contrôle autonome et indépendant de l'administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés. L'initiative du POP pour une fiscalité plus équitable a elle aussi été jugée recevable à l'unanimité par le Grand Conseil neuchâtelois. Avec ce texte, le Parti ouvrier souhaite taxer les fortunes des plus riches avec des petits montants. Par là, il souhaite combler le manque à gagner de la baisse d'impôts décidée en décembre 2016 par le Grand Conseil. Et puis l'initiative pour la défiscalisation totale des primes d'assurance maladie est-elle enterrée ? Le texte qui avait été jugé recevable en 2017, puis non conforme au droit fédéral, a finalement été rejeté par le Grand Conseil neuchâtelois. Les réflexions sur le sujet vont se poursuivre. Le FC Dombresson reprend le chemin de Soulemont. Moins d'une semaine après l'incendie qui a ravagé ses infrastructures, les entraînements peuvent avoir lieu sur le terrain du club où 4 containers servant de vestiaires ont été installés. Les matchs, eux, se déroulent à Valangin, où une surface de jeu, des vestiaires, des douches et une cantine sont à disposition des footballeurs de Dombresson en attendant que leurs infrastructures soient à nouveau pleinement réutilisables. Suite à l'incendie, le club de football a reçu du soutien de différents autres clubs et institutions de la région, dont le FC Val-de-Rue. L'occasion d'aborder le sujet d'une éventuelle fusion entre les deux formations. Ludovic Gambarini, responsable de la communication du FC Dombresson.
De toute façon, nous travaillons déjà en adéquation avec le FC Val-de-Rue. Il y a déjà des synergies qui sont réalisées. Maintenant, le rapprochement va se faire de lui-même, je pense. Et puis, dans les jours à venir, cet élan de solidarité que nous offre le Val-de-Rue sera aussi bien perçu au FC Dombresson. Donc effectivement, oui, des synergies existaient déjà, elles existeront toujours. Le rapprochement a été fait à un certain moment donné et il se refera sûrement dans l'avenir.
Mais ça veut dire qu'un jour, on pourrait voir le FC Dombresson intégrer le FC Val-de-Ruz ?
Alors, il est trop tôt pour le dire encore, mais c'est des choses qu'on entend de ci, de là. Maintenant, il faudra voir. Le premier objectif pour nous, c'est déjà de pallier à ce sinistre et puis de voir si déjà sur l'avenir, en nous concentrant sur le FC Dombresson avant tout déjà.
Et le FC Dombresson a lancé aujourd'hui un financement participatif sur la plateforme I Believe in You pour pouvoir racheter le matériel nécessaire à son bon fonctionnement. Plus de renseignements sur rtn.ch. Le nombre d'ateliers, d'horlogeries ou de bâtiments potentiellement contaminés au radium en Suisse prend l'ascenseur. L'Université de Berne a répertorié 1000 lieux concernés par la problématique. Un premier bilan faisait état de 500 bâtiments touchés. Un tiers des sites potentiellement contaminés se trouvent dans le canton de Neuchâtel et un autre tiers dans le canton de Berne, principalement dans la région de Bienne. Des contrôles ont déjà été menés dans 400 lieux et 80 suites doivent pour le moment faire l'objet d'un assainissement. Alliance dans le domaine de la construction, le groupe Zuiton et le groupe Patchy qui réunissent 12 entreprises dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Eh bien, ces entreprises ont décidé d'unir leurs compétences. Ce rapprochement prend effet rétroactivement au 1er janvier 2018. La nouvelle organisation sera progressivement mise en place dès le 2 mai. Les deux identités seront toutefois conservées. L'objectif affiché des deux sociétés est de se positionner plus solidement sur le marché de la construction et de renforcer leur compétitivité. Le palmier de Gorgier est une nouvelle fois contesté. Une quinzaine de riverains se sont unis pour déposer une opposition auprès de la commune contre l'installation de l'œuvre d'art sur un îlot flottant au large du village. Cette opposition est aujourd'hui entre les mains du Conseil d'État neuchâtelois qui s'était investi dans ce projet lié à la rénovation de la prison de Gorgier. L'exécutif doit évaluer quelle suite donner à la démarche des riverains. Le palmier initialement prévu aux abords de la prison avait déjà été contesté et déplacé sur l'île en question. Plonk et Replonk s'installent à la Caisse cantonale d'assurance populaire. Leur nouvelle exposition intitulée « La vie de bureau » prend ses quartiers dans les locaux de la CCAP à La Chaux-de-Fonds. L'idée de cette collaboration est venue d'une discussion avec l'agent général de la Caisse d'assurance lors d'un vernissage. Un partenariat qui laisse au collectif d'artistes chaux-de-fonniers une grande liberté sur le choix des œuvres présentées. Miguel Andrel Morales et Jacques Froidevaux, membres du collectif Plonk et Replonk.
La seule contrainte, c'est le choix à faire, parce que nous avons à peu près, un millier d'images disponibles, au bas mot.
On n'est pas enfermé dans ce que veut le client.
Absolument pas, on a l'habitude, quelque part, de travailler sur toutes sortes de sujets très différents, donc un musée avec des peintures, on a fait un calendrier pour une usine de cornichons, on bosse sur un documentaire sérieux, même si on apporte une touche sur un documentaire historique, donc on a l'habitude de naviguer avec beaucoup de choses quand même.
Et la Caisse cantonale d'assurance populaire se dit enthousiaste de voir Plonk et Replonk s'installer dans ses murs. Gilles Schwab, responsable des ventes de la CCAP.
Pour nous, on est régional, c'est notre ancrage, on est pour les Neuchâtelois, donc c'est une raison supplémentaire de pouvoir exposer des artistes régionaux. Et puis, ça fait une collaboration qui fonctionne bien, autant pour eux que pour nous, en ayant des personnes qui viennent voir les expositions de Plonk. Ça permet de présenter notre institution, qui n'est pas une compagnie d'assurance, mais une institution, ce qui est différent. Donc, c'est une chance pour nous aussi de pouvoir leur offrir cet espace et eux nous offrent leur notoriété pour que nous puissions profiter les uns des autres, mais en bonne intelligence.
Des propos recueillis par Elodie Soares, l'exposition La vie de bureau est à découvrir entre le 27 avril et le 15 juin dans les locaux de la CCAP à La Chaux-de-Fonds. Pour tout découvrir sur l'analyse sensorielle appliquée à la dégustation de l'absinthe, rendez-vous dès samedi à Motier. La nouvelle exposition temporaire de la Maison de l'absinthe a pour titre Dans tous les sens. Elle met en lumière le travail scientifique réalisé par la Haute École de Viticulture et d'Œnologie de Changin. Et plus, en plus des explications écrites, les visiteurs pourront profiter de modules ludiques fabriqués par des élèves automaticiens et médiamaticiens du CPLN à Neuchâtel. Il y a notamment un distributeur de pastilles, Julie Maté, responsable muséale de la Maison de l'Absinthe.
C'est un test gustatif, en fait c'est une petite machine qui distribue des pastilles qui correspondent aux 5 saveurs de base, donc sucré, salé, acide, amer et umami, qui est la 5e saveur, qui correspond à quelque chose qu'on peut trouver dans des viandes ou dans des bouillons. Et donc là, l'idée, c'est que le visiteur appuie sur un bouton pour recevoir dans sa main une pastille. Il va ensuite goûter cette pastille et il devra déterminer laquelle des saveurs correspond à la pastille qu'il a goûtée.
Vous avez commandé combien de pastilles pour toute la durée de l'expo ?
On a commandé à peu près 12 000 pastilles. Ça correspond à une pastille par visiteur pour une année. Là, l'expo a duré un peu plus d'une année, mais pas chaque visiteur va goûter chaque pastille. Et peut-être aussi les visiteurs qui visitent la maison en groupe n'auront peut-être pas le temps de s'attarder dans l'exposition et d'expérimenter tous les jeux.
Des propos recueillis par Marie-Lise Saillard. L'exposition Dans tous les sens est à découvrir dès samedi et jusqu'à fin 2019 à la Maison de l'Absinthe à Moitiers. Pour la première fois, les CFF introduisent un horaire spécial été. En raison de gros chantiers, le trafic sera interrompu sur certaines grandes lignes, notamment entre Lausanne et Puy-Doux sur la ligne Lausanne-Berne. Plus aucun train ne roulera entre le 7 juillet et le 26 août, le temps de changer la voie et de l'adapter aux impératifs des nouveaux trains bombardiers. Les CFF auraient pu travailler la nuit, mais cela aurait pris plus de temps, causé plus de nuisances aux riverains et coûté plus cher. Rudy Bury, responsable des infrastructures au CFF.
Si nous faisons les travaux seulement pendant la nuit, la duration est beaucoup plus longue. Ça dure 5 mois et moitié. Et avec la fermeture complètement, on a seulement 7 semaines pour les travaux.
Et ça coûte moins cher.
Oui, absolument. Ça coûte moins cher. Nous pouvons gagner aussi de l'argent. Et nous avons aussi une logistique qui est plus simple.
Le chantier entre Lausanne et Puy-Doux n'est pas le seul chantier en Suisse.
Non, ce n'est pas le seul. On a aussi un grand chantier entre Bâle et Olten et un autre en environ de Saint-Gall. Mais il y a encore une trentaine de chantiers dans toute la Suisse.
Les CFF renouvelleront 55 km de voies ferrées dans le pays. La compagnie ne laisse pas les voyageurs à quai. Des bus emmèneront les usagers régionaux de la Riviera. Entre Lausanne et Berne et ou entre Lausanne et Zurich, il faudra emprunter la ligne du pied du Jura par Neuchâtel avec un allongement de 28 minutes du temps de trajet vers Berne. Linus Loser, responsable de la gestion du trafic au CFF.
On a une interruption totale entre Lausanne et Puy-Doux pour 7 semaines. Et pour les pendules, ça veut dire qu'ils allant sur la ligne du pied du Jura et on va faire un shuttle concept, ça veut dire un train qui shuttle pendant Lausanne et Fribourg, mais ils ont plus ou moins 30 minutes en plus.
Un sujet réalisé par Serge Jubin. Pour tous les trajets à partir du 30 juin, les CFF recommandent de consulter l'horaire. L'Iran pourrait se retirer du traité de non-prolifération nucléaire si les États-Unis dénoncent l'accord de Vienne. C'est ce qu'a prévenu aujourd'hui un haut responsable iranien. Le président américain Donald Trump a donné aux signataires européens de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien jusqu'au 12 mai pour, je cite, « réparer les affreuses erreurs de ce texte » signé sous la présidence de Barack Obama en juillet 2015. Faute de quoi il refusera de prolonger l'assouplissement des sanctions américaines contre la République islamique.
Vous écoutez RTN, il est 18h13.
Sport. Le premier maillot du Tour de Romandie cycliste 2018 est australien. Michael Matthews a remporté le prologue de 4 km disputé dans les rues de Fribourg. Sur un parcours se terminant par une terrible côte de 500 mètres, Michael Matthews s'est imposé avec une seconde d'avance sur le rouleur suisse Tom Boly. Le podium est complété par le Slovène Primož Roglič. Retour sur ce prologue avec notre confrère de Radio Fribourg, Valentin Danzy.
Décor de carte postale pour ce prologue du Tour de Romandie dans les rues de Fribourg. Et sous le soleil, c'est Michael Matthews qui s'est montré le plus rapide sur les 4 km du parcours, qui partait de la cathédrale avant de filer en basse ville et de remonter par la Grand Fontaine et finalement la route des Alpes. Âgé de 28 ans, l'Australien a été une seconde plus vite que le Suisse Tom Boly. À 24 ans, le Saint-Gallois est passé près de l'exploit, mais il a prouvé aujourd'hui à Fribourg qu'il fallait compter sur lui à l'avenir lors des contre-la-montre.
Et la première étape de demain conduira les coureurs de Fribourg à Delémont sur 166 km 600 via Avenches, Cudrefin, Le Landron, Lignières, Tavannes et Moutier. Sabrina Jacquet a enlevé une belle bataille lors du premier tour des championnats d'Europe de badminton à Huelva en Espagne. La badiste chaudefonnière a disposé de la Russe Natalia Perminova en 3 manches. Au deuxième tour, elle affrontera la Néerlandaise Soraya Devich et Eiji Bergen. Enfin, du renfort pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace en vue des championnat du monde au Danemark du 4 au 20 mai prochain. Le gardien Reto Berra et l'attaquant Nino Niederreiter ont été libérés par leur club de NHL, la Ligue professionnelle nord-américaine, pour rejoindre la sélection de Patrick Fischer.
Retrouvez toute l'actualité de la région également sur rtn.ch. Là, on prend des nouvelles de la météo. Avec de belles conditions ensoleillées pour cette fin de journée, malgré la présence de quelques cumulus a priori inoffensifs. Demain, poursuite de ce temps ensoleillé, malgré quelques voiles et autres formations nuageuses un peu plus nombreuses l'après-midi. Les températures vont rester douces, 18 degrés en journée, attendus à la Chaux-de-Fonds, au Locle ainsi que dans le Val-de-Ruz, 21 dans le Val-de-Travers, 22 à Neuchâtel, Payerne et Yverdon. Et puis pour la suite, jeudi, ciel déjà un peu plus nuageux, mais un temps restant normalement encore sec. L'arrivée de la pluie, c'est pour vendredi.